Et si demain, les managers n'en rencontraient plus jamais leurs collaborateurs? Ou si on regroupait les équipes marketing et R&D dans la même division? La transformation du business model d'une entreprise implique-t-elle forcément l'évolution des métiers, l'évolution de l'organisation? Probablement oui, mais comment faire? Le management est-il le même dans un monde digital? Et comment les nouvelles infrastructures technologiques peuvent-elles accompagner ces changements? Nous avons déjà vu dans cette chaîne que la transformation du business model d'une entreprise remet le client au centre des préoccupations. Mais pour permettre cette accélération, il faut également se demander ce que cela implique pour l'ensemble des salariés. Et comment l'entreprise va-t-elle les aider à monter à bord du train de la transformation numérique? En effet, articuler des dimensions culturelles globales et locales, intégrer différentes générations, travailler en équipe à distance, implique une forte capacité d'adaptation pour les salariés. Comment les remettre au centre de l'entreprise et quelles nouvelles règles établir? Voyons ce qu'en pensent nos invités, Alain Thibault et Anthony Poncier. Anthony Poncier, vous êtes directeur de la transformation digitale Europe chez Publicis Consultant. Vous prenez la parole aujourd'hui sur les enjeux de l'innovation numérique et son impact sur les organisations. Vous exposez dans le livre blanc sur la transformation digitale de Publicis la notion d'attention symétrique. Pourriez-vous décrypter ce concept pour nous?
Dans l'idée, une entreprise doit être principalement centrée sur ses clients. Maintenant, pour pouvoir rendre un service de qualité à ses clients, il s'agit que les collaborateurs aient aussi envie de le faire, se sentent orientés vers ce client. Donc l'attention avant tout doit se porter sur les collaborateurs qui vont donc pouvoir eux-mêmes prendre des choses en main, faire leur travail, avancer, se dédier à leurs clients. Et ça veut dire que mon client serait heureux au final car j'aurai apporté une valeur ajoutée. Parce qu'au départ, mon collaborateur était heureux. D'où cette idée de symétrie. Bonheur d'un côté, bonheur de l'autre, c'est gagnant-gagnant.
Vous nous dites qu'il faut remettre l'employé au centre de l'organisation, mais ne risque-t-on pas de faire peser tout le changement sur lui et quels sont les risques associés?
Le problème actuellement, c'est plutôt que les salariés ne sont pas acteurs de changement. Ils subissent un changement, on ne partage pas forcément une vision, on ne leur donne pas les moyens d'être partie prenante. Donc là, il ne s'agit pas de leur faire porter la responsabilité, mais il s'agit plutôt de leur donner les moyens de devenir ces acteurs du changement, d'être partie prenante, de leur demander leur avis, de les faire participer à ce changement. Et ainsi, là encore, comme pouvait le dire Confucius, si on me dit « je vais oublier », si on m'explique « je vais retenir un peu », si on me fait faire « je vais comprendre ». Et c'est bien ça dont il s'agit, comprendre pourquoi on change et vers où on va.
Alain Thibault, vous êtes le président de Juliette Steven et vous prenez la parole aujourd'hui sur les enjeux humains, tant comportementaux que liés aux nouveaux modes de travail et aux nouveaux usages. On l'a vu avec Anthony, l'engagement des employés est clé. La capacité à travailler en équipe et surtout pour l'équipe est-elle importante?
Oui, c'est clé aujourd'hui le travail en équipe. Beaucoup travaillé sur l'individu, maintenant on est passé à l'équipe. Mais le point clé, c'est quel dispositif on peut mettre pour permettre aux gens de collaborer, de coopérer ou de se coordonner. Et tout ça est lié, en fait, parce qu'il n'est pas naturel de travailler ensemble. On ne le dit pas suffisamment, surtout dans les organisations, souvent en compétition les uns les autres. Et en plus de ça, il y a une démarche d'individualisation dans notre société qui est très forte. Donc en fait, tout va se jouer autour, y a-t-il des intérêts convergents entre les acteurs pour permettre de travailler ensemble? Et est-ce qu'il y a un respect de l'autre, une compréhension, une appréciation positive de l'autre qui va permettre de mettre en place des dispositifs qui donnent envie de travailler ensemble? Donc si vous voulez pousser tous ces travaux d'équipe ou de communauté ou de groupe, hein, et généralement c'est nécessaire si on veut pousser la transversalité, il va falloir mettre en place des dispositifs pour analyser, rechercher les intérêts des autres, hein, pour voir s'ils sont convergents avec les vôtres. Et puis le deuxième point, mettre en place des dispositifs qui permettent d'apprécier ce que fait l'autre. Ça peut être des dynamiques de capitalisation, de découverte de ce que font les autres. Il y a une multitude de techniques et de moyens pour le faire, mais c'est vraiment fondamental. Et malheureusement, on fait souvent l'impasse. On est dans des injonctions, transversalité. Mais si on ne met pas en place ces dispositifs qui vont bien, ça ne fonctionne pas.
Et au-delà de ces nouvelles compétences, ces nouvelles manières de travailler ensemble, les nouvelles technologies peuvent-elles aider ?
Oui, alors les nouvelles technologies donnent une accélération incroyable aujourd'hui. Elles donnent une accélération selon pour moi deux axes. La première, c'est que on a des techniques aujourd'hui qui permettent de mesurer des compétences et des comportements. Et je pense qu'on en est au tout début avec l'arrivée des neurosciences. On a par exemple au sein de Performance, une filiale de notre groupe, une entité qui est capable de mesurer l'efficacité collective d'une équipe et mesurer sa capacité à être agile, sa capacité de prendre des décisions. Donc c'est assez fantastique de ce point de vue-là. Le deuxième axe sur les technologies, c'est que ces technologies aujourd'hui, elles permettent de gérer l'entreprise étendue dont on parlait il y a 20 ans. Mais enfin, la techno est là et la digitalisation permet de tout faire. Et donc on est dans le flexi-work, le travail à domicile, le côté nomade par rapport à tout ça. Et tout ça, les virtual teams, les équipes dispersées qui travaillent ensemble, tout ça va demander des compétences et des comportements complètement nouveaux et des collaborateurs et des managers pour faire que tout ça fonctionne d'une manière très positive.
Alors cependant, les cultures d'entreprise sont toutes différentes. Alain, cela veut-il dire que pour certaines entreprises, mettre en place ces changements sera plus compliqué ?
Oui, enfin là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et malheureusement, les équipes dirigeantes font parfois trop l'impasse là-dessus. La culture est essentielle. On a beaucoup investi sur l'expérience client ces dernières années, beaucoup investi sur les recherches de business model et on continue et pour cause. Face à ces transformations, on a souvent fait l'impasse sur qu'est-ce qui se passe à l'interne au niveau des gens, au niveau des compétences et des comportements. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher vite, moyennement vite, ou ça ne va pas marcher. Donc c'est là que le changement va s'opérer. Et c'est pour ça que deux acteurs d'un même secteur prenant les mêmes décisions dans les transformations digitales risquent d'avoir des résultats très différents. L'un va être dans des accélérations parce que sa culture fait qu'il est agile et la transversalité est quelque chose de naturel. L'autre va être dans des freins et en fonctionnement en silo et en fonctionnement très hiérarchique et on ne le changera pas comme ça en 6 mois ou en 9 mois. Donc les freins ou les accélérateurs culturels vont être très très important. Et c'est pour ça, moi, je lance un cri d'alarme parce que les trois clés de ces réussites de transformation digitale, c'est la techno. On voit très bien ce que c'est. Les dirigeants mettent de bons budgets là-dessus. Il y a la volonté d'y aller. Donc ça, je ne suis pas soucieux de ce point de vue-là. Les process et l'orga, là, on est encore dans des choses qui sont à l'aise. Par contre, on ne met pas assez de budget sur tout le côté people, la transformation culturelle.
Alors Anthony, on l'a vu, selon le niveau d'engagement des employés, la culture d'entreprise, la transformation se fera plus ou moins facilement. Mais quel est le rôle du management et notamment du middle management dans ces changements à opérer ?
Alors, le management, pour lui, ça va être très dur parce que ça va être un pivot de cette transformation. Il va falloir qu'il se remette en question, finalement, comme vient de le dire Alain, repenser à sa culture. En même temps, il va falloir qu'il réengage quelque part ses collaborateurs, puisque d'une certaine façon, 83% de personnes qui sont désengagées dans les entreprises, pour se transformer, aller vers quelque chose, il faut bien les emmener avec eux. Une entreprise, ce sont des gens. Il faut donner envie à ces gens d'aller dans cette direction-là. Et ça veut dire, au-delà de ce management, vers le top management, être capable de porter une vision, d'emmener les gens, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette transformation pour être capable finalement de donner les moyens à chacun, les accompagner, que ce soit en formation, que ce soit en coaching, permettre à chacun de retrouver le rôle qui va lui être imparti et comprendre comment ils vont pouvoir avancer ensemble dans une même direction. Et en ça, souvent le management, malheureusement, en tout cas le middle management, est le parent pauvre. Il subit le plus de pression et on ne lui donne pas les moyens de jouer ce rôle qui va être déterminant dans cette transformation.
Alain, cela signifie-t-il que les compétences et les connaissances des managers doivent évoluer, notamment dans ce monde digital ?
Oui, elles évoluent fortement. Moi, je suis en phase complètement à ce que vient de dire Anthony. Mais si on prend un peu de recul, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de changer de siècle. On sort d'un siècle où c'était les hard skills, c'était le rationnel, les process, l'optimisation qui rayonnait. Maintenant, on découvre qu'il faut développer le cerveau droit, les soft skills, l'intuition, l'émotion, le plaisir, tous ces points qui ne sont pas forcément tous les points forts des managers et des dirigeants. Donc, il y a une profonde évolution de ce point de vue-là pour arriver à bien faire fonctionner tout ça d'une manière harmonieuse. Et sur les compétences et comportements, vu que je partage avec Anthony, moi, je ferai un zoom sur non pas les managers, mais les dirigeants. Je crois qu'eux aussi, ils ont des compétences c'est des comportements qui doivent fortement évoluer pour réussir à gagner cette compétitivité dans la transformation digitale qui est en cours aujourd'hui. Premier point, c'est avoir évidemment des strategic skills, la vision stratégique, des compétences stratégiques avec coordonnée avec une culture de l'exécution immédiate. Le temps est quelque chose de fondamental dans cette transformation digitale. Donc il faut se prolonger, se projeter dans la vision et avoir une capacité d'exécution la plus rapide possible. Le deuxième point, et on l'a dit durant toute cette vidéo, c'est d'être human focus. Si on ne pense pas aux gens, si on ne comprend pas comment les gens, les collaborateurs fonctionnent, vous ne réussirez pas vos transformations digitales. Vous avez besoin d'eux, ils ont besoin de vous. C'est du gagnant-gagnant. Mais c'est fondamental d'avoir ça. Et pour cela, il faut que le dirigeant comprenne la notion de comportement. Il faut déjà qu'il se connaisse lui-même, qu'il arrive à comprendre son environnement, son écosystème et évidemment comment vibrent ses collaborateurs. Et puis le quatrième point, c'est clair, c'est un leadership très poussé avec une vision très claire qui donne de la sécurité dans ce monde qui est assez imprévisible, qui donne de la sécurité aux collaborateurs, même si le chemin va évoluer au fur et à mesure du temps.
Anthony, un mot de conclusion ?
Je crois que par rapport à ce qu'on a exprimé avec Alain, il y a vraiment finalement trois choses à retenir. C'est avant tout tourner vers les individus. Chaque personne doit être acteur de cette transformation. Que dans l'idée de transformation digitale, c'est bien le mot transformation qui est important. Le digital, il y a un côté aiguillon qui vont montrer que les usages sont en train de changer au sein de la société, qu'ils doivent changer au sein de l'entreprise. C'est un levier, ce n'est pas une fin. Et puis surtout, puisqu'on parle d'individus, cette transformation, c'est une transformation qui va se faire sur du long terme. Ce n'est pas un 100 mètres, ça ne se fait pas en un an, ça se fait en 6, 7, 8 ans, parce que c'est un changement culturel qu'on attend et que chacun doit avancer pas à pas. Et quelque part, c'est plutôt assez bien vu par les Asiatiques, c'est l'idée qu'on n'est pas en train, on regarde une destination, mais c'est le chemin qui est important et qui va construire cette transformation digitale.
Merci à tous les deux.
Merci.
Il y a plusieurs grands changements à prendre en compte quand on parle de la transformation des organisations. Changement de business model, changement de mode de management, évolution de la culture d'entreprise, appropriation du digital et des outils numériques. Les entreprises qui réussissent leur mutation sont celles qui ont réussi à créer des ponts entre tous ces changements. Concrètement, cela revient à faire évoluer les connaissances des employés, à repenser la relation manager-manager, à repenser l'engagement de tous. Transformer et innover en tirant parti du meilleur de chacun, c'est à suivre sur cette chaîne.